Dans ce journal, on parlera d'une menace de grève à l'hôpital de Raiatea, de nucléaire avec ses mobilisations hier, des législatives bien sûr et de ce retour au Fénois de Reste Humain. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence avec cette menace de grève à l'hôpital de Raiatea.
Oui, un manque de pédiatres, des urgences sans médecins sur certaines plages horaires, des chirurgiens insuffisants pour ouvrir tous les jours le service et un service de radiologie qui pourrait simplement fermer pour 4 semaines. Selon le syndicat du personnel de santé des îles Sous-le-Vent qui vient de déposer un préavis de grève, la direction de l'hôpital a dit être sans solution. La direction de la santé assure, elle, que tous les réseaux ont été activée. D'après le pays, cette situation résulte d'arrêts maladie récents, de chevauchements de congés et de remplaçants qui se sont désistés. Le syndicat note toutefois qu'une partie des postes était vacante depuis longtemps et que certains départs étaient prévus. On écoute Philippe Dubois qui préside le syndicat du personnel.
Dans tous les services effectivement qui vont être touchés, c'est par une absence médicale, soit par disponibilité, soit par non-renouvellement de contrat. Les départs ont été prévus depuis un certain nombre de mois.
Il pointe aussi des textes trop vieux qui ne sont plus du tout adaptés à des jeunes praticiens. Difficile donc d'attirer des médecins. Le syndicat affilié à la CSTPFO veut interpeller sur le fonctionnement anormal de l'hôpital de Raiatea. Et sans accord, la grève pourrait débuter lundi prochain.
Santé toujours avec ce mercato dans les établissements.
Romina Mad, nommée directrice de la CPS en octobre 2023, va être débarquée. Elle pourrait remplacer le docteur Philippe Biarez à la tête de la direction de la santé. Alors qui pour la remplacer, elle, à la CPS? C'est le nom de Pierre Frébeau qui circule depuis un moment. L'ancien ministre de l'économie d'Oscar Temaru a été directeur de l'ARAS jusqu'en mars 2022, puis délégué interministériel de l'emploi local dans le gouvernement Fritsch et Broversen. Deux autres candidats sont en lice pour prendre la direction de la CPS, mais Pierre Frébeau semble cocher toutes les cases et il ne devrait pas s'ennuyer avec la réforme de la PSG. Selon nos informations, les changements pourraient être actés dans les jours qui viennent ou attendre la rentrée.
On continue avec du nucléaire, avec la commémoration hier du premier essai en Polynésie.
Aldébaran, c'était il y a 58 ans. Moruroa Etato a défilé hier au nom du souvenir et des demandes d'indemnisation des victimes des radiations. Trois cortèges, plus d'un millier de participants. Les militants ont interpellé les politiques, notamment sur les besoins d'évolution de la loi Morin. L'association souhaite une reconnaissance du préjudice des ayants droit, comme c'est le cas pour l'amiante. Une extension de la liste des maladies avec un spectre plus large des pathologies. La suppression du seuil minimal d'exposition et aussi le retrait de la prescription. On écoute Philippe Neufer, avocat de Moruroa Etato et cadre de l'église protestante maori.
Les personnes qui sont décédées avant 2018, leurs ayants droit ne peuvent plus réclamer d'indemnité au titre de la loi Morin après le 31 décembre 2024. Et cet obstacle temporel est de nature à freiner aussi grandement les indemnisations. C'est déjà pas facile pour les ayants droit de s'engager dans une voie de l'indemnisation parce que ça implique de convoquer des souvenirs qu'on a généralement envie d'enfouir. Si en plus on oppose une prescription, là c'est injuste pour le coup.
Pour l'avocat, si ces demandes de changement ne sont pas bien reçues à Paris, c'est que l'État est dans une optique de gestion des fonds publics plutôt que de vraiment réparer le tort qu'il a causé. Philippe Neufer appelle la classe politique locale, notamment les candidats aux législatives, qui sont aujourd'hui tous d'accord pour faire du nucléaire leur priorité à Paris, à passer des discours aux actes. Il se réjouit de la fin du tabou et du clivage sur le sujet, déjà ça de gagné.
Quand on a commencé le combat 2008-2009, on était considérés comme des malfrats à oser s'en prendre à la parole d'État. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que l'État a menti et l'État doit réparer. Donc c'est vraiment une grande source de satisfaction parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce clivage dans la société polynésienne. Tout le monde est d'accord. Maintenant, il faut aller encore plus en avant et même s'il faut reconnaître la petite avancée, il faut surtout mettre en avant les lacunes et ce qui reste encore à faire.
Des propos qui ont été recueillis par Charlie René.
Même combat, autre ambiance, avec beaucoup moins de monde au sit-in de 193.
L'association commémorait elle aussi ce 2 juillet avec donc un sit-in organisé du côté du monument aux morts. Le père Auguste Webe Carlson est allé à la rencontre des politiques. Il souhaite que les représentants de l'Assemblée votent unanimement une résolution pour demander officiellement à Paris des évolutions de la loi Morin.
On a un regard sur plus de 600 personnes qu'on a accompagnées, donc avec des dossiers, avec les freins actuels, comment les choses peuvent évoluer. et qu'est-ce qui permet aux choses de ne pas rester à ce stade. Donc là, on est à ce niveau-là avec Tony. Une résolution votée unanimement par l'Assemblée territoriale, parce qu'on sait que changer une loi, ça ne va pas être pour demain. Mais sur le fond, et pour notamment aussi soutenir ce que Mériana a initié au travers de la Commission.
Une résolution nécessaire donc, alors que le Rassemblement national semble sur la voie de la majorité à l'Assemblée nationale. Le fait nucléaire, ça n'a jamais été leur tasse de thé, selon le père Auguste, qui ne semble pas croire aux promesses d'indemnisation du Tenati. Et il se méfie aussi un peu des promesses de campagne des autres candidats.
C'est vraiment pour dire à tous les sympathisants et qu'il ne faut surtout pas éviter de tomber dans une certaine léthargie où on laisse les choses... Bon. Et c'est une parole aussi qu'on aimerait avancer aux futurs députés de ce pays. Par rapport à Mériana, là on sait le travail qu'elle a fait, mais par rapport aux autres comme à Mouirani, et ça a été très léger les discours de Mouirani sur les essais nucléaires.
Une centaine de personnes, sympathisants, bénévoles et familles de victimes étaient présentes à ce rassemblement hier. L'occasion pour eux d'échanger sur les dépôts de dossiers d'indemnisation et de se motiver pour rester mobilisés. Les cadres de l'association sont donc allés, eux, à la rencontre des politiques, notamment le président de l'Assemblée, Tony Géraud, à qui le chef de file de 193 a demandé de pousser le vote d'une nouvelle résolution sur le nucléaire.
Mais ce ne sera pas celle proposée hier par la représentante Tavigny.
On vous en parlait hier, Hina Moeura Morgan-Cross souhaitait présenter une résolution pour renforcer le langage du statut à propos des essais nucléaires, une initiative qui n'a pas plu au président de l'Assemblée, Tony Géraud. Pour le parti indépendantiste, il aurait d'abord fallu en discuter en commission de majorité et faire des groupes de travail. Il reproche à Hina Moeura Morgan-Cross son manque d'humilité. Ce n'est pas la première fois qu'elle est mise sur la sellette par son propre groupe. En novembre 2023, sa proposition de résolution pour limiter à deux les mandats électifs des représentants de l'APF avait suscité des remontrances de la part de la majorité et même des appels à l'exclure. Elle avait d'ailleurs perdu la présidence de la commission des institutions. L'objection principale cette fois concerne l'opposition du Tavigny sur le statut. Il veut en sortir et donc ne voit pas l'intérêt de le modifier. La représentante estime, elle, qu'il faut jouer avec les cartes qu'on a en main. Elle ajoute être marginalisée à chaque fois dans son propre camp et ça risque de continuer car selon Tahiti Info, elle s'apprête à co-signer une autre proposition de résolution et cette fois avec l'opposition. Pour modifier le mode de scrutin déterritorial. Toujours selon Tahiti Info, elle dit qu'elle sera la punaise dans la savate de Tony Géraud.
Et de la politique, il y en avait aussi sur notre plateau hier midi.
Oui, avec un premier débat d'entre-deux tours, Nicole Sanker et Steve Chaillot ont répondu à nos questions et se sont répondus aussi. Ils ont tous les deux fait valoir leur expérience respective du Palais Bourbon, ayant déjà siégé comme député. Concernant le soutien du Tenati Rassemblement National à Nicole Sanker, la candidate prend assez mal le chantage d'Éric Minardi, siégé au RN en échange de ce soutien. Elle assure que si elle et Pascal Haïti sont élus, elles siégeront dans un groupe de 100 droit. Elle s'inquiète de cette menace du patron du Tenati. Si on ne siège pas dans la majorité, les dossiers polynésiens ne seront pas traités. C'est un manque de respect à nos populations et à notre pays, a-t-elle réagi. Steve Chaillot a pointé, lui, la dissonance sur ce point avec un Moeirani Frébo candidat de Renaissance aux Européennes ou encore une Pascal Haïti Floss dont le parti a complètement fait campagne pour le Rassemblement National en 2017. Les deux candidats se sont accordés sur l'avenir de cette nouvelle Assemblée Nationale, estimant qu'elle ne devrait pas durer dans le temps. L'absence d'une majorité absolue pourrait conduire, selon eux, à une instabilité, voire même un blocage des institutions. Par contre, localement, pas de problème pour eux pour travailler ensemble, que ce soit des députés Tavigny avec le député Amuitato ou encore des députés Amuitato avec un gouvernement Tavigny. Sauf avec Pascal Haïti, expliquait Steve Chaillou. Pour l'ancien député, la candidate est une opposition très agressive avec un gouvernement indépendantiste dont elle a horreur, a-t-il dit. Retrouvez l'intégralité du débat sur notre site radio1.pf et Pascal Haïti pourra justement répondre à Steve Chaillot puisqu'elle sera en direct sur nos antennes avec Mériana Red Arbelot pour le débat des législatives sur la troisième circonscription. C'est à 11h30 en direct ce matin.
À présent, Lucie, un mot de culture avec le rapatriement depuis Hawaï vers le Fénoua de restes humains.
Cette restitution est la première du genre initiée par le pays. Elle a été rendue possible grâce à un partenariat entre le Bishop Museum et la Direction de la Culture et du Patrimoine. Après presque 3 ans de travail, une première partie de restes humains prélevés dans les années 70 sur des marais et des sites historiques dans toute la Polynésie rentrent au Fénoua, mais il en reste encore beaucoup dans les collections non muséales du musée de Honolulu. Un contrat entre la DCP et le Bishop Museum va permettre d'en faire un inventaire. Et sur ces ossements revenus au Fénoua, le personnel de la DCP va désormais les étudier et essayer de leur redonner une histoire, car aujourd'hui il est impossible d'identifier leurs propriétaires. Mais l'objectif, au-delà de leur simple rapatriement, il s'agit de rendre au Fénoua ces vestiges conservés et aussi de réconcilier les populations avec l'archéologie. On écoute Anatawari Tamari, responsable de la cellule patrimoine culturel de la DCP.
C'est un chantier qui n'a pas de fin. Je veux dire, aujourd'hui, c'est les ossements humains au Bishop. Demain, ça sera les ossements humains en Arizona, en Norvège. Enfin, c'est juste qu'il faut amorcer les choses et faire en sorte que les choses se fassent de manière respectueuse vis-à-vis des communautés locales. Parce que vraiment, l'intérêt, l'objectif, en tout cas derrière, c'est de réconcilier les communautés locales avec notre métier et leur permettre finalement de reposer chez eux, quoi.
Et un autre projet similaire est en cours donc avec l'État d'Arizona qui prévoit une restitution avant la fin de cette année.
Et puis cette petite info pratique pour terminer.
Oui, c'est l'IOM qui rappelle qu'il est toujours possible d'échanger les anciennes pièces de francs pacifiques directement dans leur bureau. Selon eux, le taux de retour constaté serait de seulement 19%. S'il vous en reste encore, rendez-vous donc directement dans les bureaux de l'IOM ou pour les Iliens dans ceux de Fareirata avec une pièce d'identité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information dans quelques minutes pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie, on enchaîne avec la météo sur Radio.